Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
On va parler de sport au Québec, de sport à Montréal, mais pas seulement à Montréal. D'ailleurs, c'est un texte de Marc Defoy, notre camarade du Journal de Montréal, qui m'a fait réfléchir à cette discussion-là ce soir. Puis, j'étais dans un état de pensée pas bien loin de... En fait, c'est les capitales de Québec. Je pensais aux capitales de Québec. Puis, je me disais, tu sais, comment ça fait que, entre vouloir une équipe de baseball majeur qu'on n'aura jamais... puis de pas rien avoir de professionnel, est-ce que je prendrais un club comme les Capitales de Québec? Puis je me disais oui, puis je me posais la question, est-ce qu'on est prêt à accepter que on n'est pas, je dis pas qu'on n'est pas une ville majeure, que Montréal n'est pas une ville majeure, c'est une ville majeure, mais qui est peut-être hors circuit des ligues majeures de sport, parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'on apprend ça. Je veux dire, les Nordiques sont partis parce que les gens qui les possédaient ont décidé que c'était trop gros pour leurs moyens. C'est leur version. Ils ont toujours persisté et signé. Il y a des marchés pas plus gros qui ont gardé leur équipe, qui les ont encore aujourd'hui, mais c'est pas là le débat. Les Expos, un petit peu la même affaire. Dans les deux cas, un commandité qui voulait pas diluer son actionnariat, qui voulait passer à go puis profiter du maximum de retour sur son investissement, qui était pas toujours la place d'un investisseur majoritaire dans ces consortiums-là. Bref, je veux pas compliquer l'affaire, mais donc, ça fait longtemps qu'on a réalisé, parce que sinon, on n'aurait pas perdu nos clubs si nous étions des villes des ligues majeures. Maintenant, quand des années plus tard, Marc écrit ce matin, le Québec n'est plus capable de suivre la parade en matière de sport professionnel. C'est bien dommage pour les amateurs. Puis un petit peu avant, dans son texte, il se pose même la question par rapport au Canadien de Montréal. C'est à se demander qui au Québec aura les moyens d'acheter le Canadien quand la famille Molson encaissera les gros profits que lui rapportera la vente de l'équipe. Ça m'a amené à une question. Est-ce qu'on l'accepte? Puis qu'on est une ville un peu hors circuit, qui nous empêche pas d'avoir des événements majeurs comme les Grands Prix cyclistes en fin de semaine, comme le Grand Prix de Formule 1, comme la Coupe Rogers, mais c'est des événements qui ne font que passer sans enlever tout ce qui nous amène. Alors, pour cette discussion-là, j'ai cru bon inviter nul autre que l'auteur des lignes que je viens de citer, Marc Defoy. Bien le bonsoir, Marc.
Bonsoir, Mario.
Et Jérémy Filosa. Jérémy qui s'est souvent exprimé sur la situation du sport à Montréal, au Québec, au fil des ans, sur les médias sociaux. Et ici, à cette antenne, bien le bonsoir, Jérémy.
Salut, Mario. Salut, Marc.
Jérémy.
Salut, Jérémy.
Je vais commencer avec toi. Je viens de citer Marc, mais toi, est-ce que tu acceptes le fait que, comme Marc l'affirme dans son texte, que le Québec n'est plus capable de suivre la parade en matière de sport professionnel? Est-ce que tu es résigné à ça?
Je te dirais, Mario, là, que je pourrais passer toute la soirée à te parler de ce sujet qui, malheureusement, me trouble profondément à l'intérieur de moi-même, étant un journaliste sportif, étant un gars qui vit de tout ce qui se passe dans le monde du sport au Québec et voyant un peu la déchéance là, des 25-30 dernières années dans le monde du sport ici au Québec, je l'accepte extrêmement mal, Mario. Je me promène beaucoup, étant donné mon travail avec Apple TV et la MLS, dans tous les marchés nord-américains et j'ai beaucoup de difficultés à comprendre comment Montréal, avec 4,5 millions d'habitants, la grandeur que nous avons et la passion dont nous avons aussi en tant que peuple, nous avons décidé de penser à nous-mêmes comme un peuple petit. On ne voit tellement pas grand. Et moi, dans ma mentalité, de la façon dont j'ai été élevé, dans ma petite famille d'Italiens, de toujours rêver grand, haut et fort, et d'essayer d'atteindre les plus hauts sommets, ça me trouble profondément de voir à quel point nous n'avons plus aucune ambition au niveau sportif pour compétitionner avec les autres villes de notre grandeur en Amérique du Nord.
Ben, toute une entrée en matière qui ne laisse aucune ambiguïté sur ton état d'esprit par rapport au sujet. Marc, toi, là, quand tu affirmes ça, es-tu résigné à cette réalité-là ou t'as une petite partie qui rêve encore qu'on redevienne à quelque chose de tu sais, qu'on ressemble à quelque chose qui a déjà, comme dans le temps, qui a déjà été plus gros en matière de sport professionnel?
Je suis résigné, Mario, parce que le sport professionnel nord-américain, c'est plus que jamais, ben, ça a toujours été Les magnats du sport ont toujours été là pour faire des profits, engranger des profits. Ça, ça a toujours été comme ça. Mais avec... Lorsque le sport a vraiment changé là, avec l'abolition de la clause de réserve au baseball dans les années 70, puis ensuite ça s'est propagé dans tous les autres sports, ça l'a détruit l'échelle des valeurs. Il y a tellement d'argent. Certains diront tant mieux pour les athlètes, mais bon, combien ça leur prend pour être heureux? Finalement, moi ce que je dis, c'est au bout du compte, ce sont les amateurs qui écopent. Et des gens d'affaires qui sont prêts à investir des milliards, parce que là, on ne parle plus de millions, là, on ne parle plus en termes de millions. Là. Les sénateurs d'Ottawa qui évoluent dans un amphithéâtre assez loin du centre-ville, la capitale, ont été vendus près d'un milliard de dollars. Près d'un milliard, là, les gars.
C'est quelque chose.
Dit, là,
ah, c'est quelque 950 chose.
Millions, je pense. C'est beaucoup d'argent. Donc, je me pose la question. Moi, je regarde le Canadien. La valeur du Canadien, selon la revue économique Forbes, est évaluée à quoi? 1,2, 1,3 milliards. Le groupe de Jeff Molson a payé quoi? 575 millions US. Puis la valeur, là, c'est 1,2, 1,3 milliards là, US. Là. Donc, je me dis... Tant que la famille Molson voudra être là, ben ça va être probablement tant mieux pour tout le monde. Mais le jour où les Molson et leurs associés, leurs partenaires d'affaires vont dire, ben là, on a un gros profit à faire, puis on est un peu blasé, on vend. Qui au Québec aura vraiment les moyens d'acheter cette équipe-là?
Penses-tu que ce jour-là va arriver, Marc?
Je ne veux pas être fataliste. Je ne dis pas que le Canadien va déménager. Là.
Non, non.
Mais il faut penser à ça. On l'a vu avec les Expos, on l'a vu avec les Nordiques. Il n'y a pas personne au Québec qui a été capable de garder ces deux concessions-là chez nous. C'est quand même une réalité. Puis on regarde ailleurs, dans les autres villes, là, on regarde ce qui se passe avec les Athletics d'Oakland, notamment, et les Rays de Tampa. Ce sont deux équipes qui recherchent un nouveau stade depuis des années. Ça arrive pas. Puis ils fonctionnent avec Tampa Bay, c'est tout à son honneur. Ils sont capables, l'équipe est capable de fonctionner. Mais à Oakland, là, ça fonctionne plus. Là, la méthode Billy Bean, là, ça marche plus, ça, là. Donc, moi, je regarde ça, puis je suis pas très optimiste pour l'avenir du sport professionnel à Montréal. Le Canadien, on est chanceux d'avoir le Canadien. Puis sans rien enlever aux Alouettes et au CF Montréal, on parle pas du même calibre. On parle pas de la même chose. Là. Tu t'en vas à Toronto, je vais terminer là-dessus. On s'en va à Toronto. On a du hockey de la Ligue nationale, comme ici. On a du baseball majeur. On a du basketball. Bon, la NFL, ça n'arrivera pas, mais les Leafs, on dit que les Leafs n'ont pas gagné la Coupe depuis 1967. Ben, Toronto a au moins connu deux conquêtes de la Série mondiale et une conquête de la NBA. Puis nous, à Montréal, on vivra jamais ça.
En effet, Marc. Jérémy, je reviens à toi, puis évidemment ouais. Gênez-vous pas là pour intervenir sans que je vous donne la parole si vous avez le goût dans le feu de la discussion. Mais Jérémy, je sais pas si c'était quoi avant que je te lance. Tu veux-tu réagir à ce que Marc a dit?
Oui, absolument, parce que tu sais, Marc a raison, mais en même temps, moi, tu sais, quand je disais tout à l'heure, on manque de vision. Souvenez-vous, les gars, là, que Jeffrey Loria a vendu les Expos au baseball majeur en 2002, donc un peu plus de 20 ans, pour 120 millions de dollars. Mais est-ce que vous réalisez aujourd'hui c'est quoi 120 millions de dollars? C'est une farce. Si les hommes d'affaires du Québec de l'époque avaient pu regarder dans l'avenir et dire « ce club-là va valoir, parce qu'il n'y a plus aucun club du baseball majeur aujourd'hui qui vaut en bas d'un milliard », ils auraient 10 fois plus la valeur du montant qu'ils auraient payé à l'époque si eux avaient acheté l'équipe de Jeffrey Loria pour 120 millions. Et on disait à l'époque, Mario, que c'était beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'on était à côté de la traque? C'était une farce. Quand j'entends aujourd'hui que le CF Montréal vaut 375 millions puis qu'on dit il y a personne qui va acheter ça, quand c'est le club qui vaut le moins d'argent dans toute la ligue et que déjà des clubs qui valent 1 milliard de dollars, si je suis un homme d'affaires, j'achète cette équipe-là puis je me dis si je la gère moindrement bien, ça va prendre combien de temps avant qu'elle vaille 500 millions, 600 millions ou qu'elle atteigne la moyenne de la ligue à 700 millions parce que c'est ça que ça coûte pour rentrer dans la ligue maintenant. je trouve qu'on voit très, très, très petit et on n'est pas capable de regarder vers l'avenir, ce que les hommes d'affaires normalement devraient être capables de faire. Il faut pas oublier que la majorité des franchises aussi de l'Amérique du Nord et partout dans le monde sont pas nécessairement toujours la propriété de quelqu'un qui vient de cette ville-là. Ça peut être la propriété aussi d'une entreprise ou d'un homme d'affaires qui vient d'ailleurs. Mais j'aimerais que les gens s'ouvrent les yeux et se disent, on pensait il y a 20 ans que les expos à 120 milliards, c'était beaucoup d'argent. Bon, t'es-tu dans le champ ou quoi?
Ouais, écoute, c'est sûr que les gens qui le possédaient, le club, ont manqué de vision. Ils ont pensé à l'immédiat. Puis les leaders de ces deux groupes-là, je veux dire, sans tomber dans la médiation, mais les deux avaient intérêt à ne pas diluer leur actionnariat, comme je l'ai dit, pour passer à go. Puis c'était leur occasion de s'en mettre beaucoup dans la colonne des profits au détriment du bonheur collectif. Fait qu'on a peut-être manqué de vision, mais la planche de salut, si, comme Marc dit vrai, puis j'ai pas tendance à penser qu'il est dans le champ, je pense pas que toi non plus tu penses qu'il est dans le champ quand tu dis que le Québec n'est plus capable de suivre la parade en matière de sport professionnel. Alors, la planche, s'il y a de quoi d'autre à survenir ici en termes d'établir un club pro à Québec, Montréal ou autour, Marc, ça va passer par de l'argent d'ailleurs. As-tu entendu des échos de quelqu'un qui a encore un projet d'amener un club d'un circuit majeur ici? NBA, il n'y a plus personne qui en parle.
Non, pas du tout.
Hein?
Pas du tout.
C'est
écoute,
mort.
D'abord, rappelons-nous, là, lorsque George Lett s'est porté acquéreur du Canadien, là, en premier, là, l'accueil n'a pas été délirant, là. Les gens étaient bien déçus parce que le Canadien, c'est une institution québécoise et canadienne. Donc, on se disait, ben voyons donc, le Canadien qui appartient à des Américains, dans le cas des expos, ben ça a mieux passé. Mais dans le cas du Canadien, c'était insensé, là. On n'en revenait pas de ça. Puis pour venir à ce que... pour venir sur le dossier des expos, là, puis on peut parler d'autres dossiers aussi, là, de d'autres sports. Les gens d'affaires, aux États-Unis, lorsque des équipes veulent avoir un nouveau stade, un nouvel amphithéâtre, il n'y a pas de problème. Souvent, bon, des fois, ça traîne en longueur, ça peut traîner, mais dans combien de villes on a vu les élus dire, OK, bon, on va appuyer, on va en bâtir une nouvelle enceinte. Mm-hmm. Parce que là-bas, on pense... Les édiles gouvernementaux, ils pensent business aussi. Mais ouais. C'est pas le cas ici.
Non.
Ouais. C'est pas le cas du tout. Et là, c'est peut-être là l'erreur, c'est que nos gouvernements devraient considérer le sport professionnel comme une industrie.
On a construit le centre Vidéotron quand même. Marc, permets-moi de glisser au passage. Là, on a quand même construit le centre Vidéotron à Québec.
T'as raison, j'ai souligné dans le test que j'ai fait aujourd'hui. Mais
ça n'a pas abouti sur l'espoir qu'on avait.
Ça a pris un... pas d'histoire, là. Comme M. Péladeau vous a dit la semaine dernière, là, qui l'a dit à Paul Arcand,
oui.
Faut plus raconter d'histoire. À quel point les gens de la Ligue nationale ont considéré la ville de Québec. Moi, là, je me demande, c'est à pas fort, là. Et rappelons-nous, puis il l'a dit plus qu'une fois, rappelons-nous ce que Jeremy Jacobs, le propriétaire des Bruins de Boston, qui était président du comité de l'expansion de la Ligue nationale, rappelons-nous ce qu'il disait au sujet de Québec. Québec est un marché extraordinairement petit. Là, il y en a qui vont dire, et avec raison, ben Winnipeg, alors, c'est vrai, mais la Ligue nationale a été forcée de retourner à Winnipeg parce qu'il n'y avait personne aux États-Unis qui voulait acquérir les Trashers d'Atlanta. C'est la seule façon, puis écoutez, là, dans les derniers mois, là, de la dernière saison, là, il a commencé à avoir des murmures là, à Winnipeg, là, parce que les gens à Winnipeg là, sont tannés, là. Il espère de meilleures performances des Jets. Puis là, on commence à dire que les abonnés de saison, là, ils se font tirer l'oreille un peu plus là, pour renouveler leur abonnement. Là.
Mais je voudrais vous partager une discussion que j'ai eue avec un homme d'affaires l'hiver dernier.
Jérémy, tu me permets-tu de te mettre là juste sur pause, mais garde ton idée. Je dois vraiment aller à la pause publicitaire parlant de pause. Et on reprend exactement là où tu nous laisses là, au retour en discussion avec Jérémy et Marc Defoy sur... Ben, est-ce que le Québec, Montréal et Québec, le Québec en ensemble, peuvent encore suivre en matière de sport professionnel ou pouvons-nous être heureux avec ce que nous avons?
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
En conversation avec Marc Defoy, le vétéran chroniqueur et journaliste du Journal de Montréal, Jérémy Filosa également avec nous autour de la question, êtes-vous prêt à accepter que Montréal ne soit plus une ville des ligues majeures? Je sais que c'est pas complètement la réalité parce qu'on a le Canadien de Montréal, puis on a des événements de majeurs, mais des événements qui ne font que passer, qui reviennent année après année. Est-ce qu'on peut être heureux avec ce que nous avons plutôt que de déprimer avec ce que nous n'avons plus? Jérémy, je t'avais demandé d'être en pause. Tu dis que tu avais une rencontre avec un homme d'affaires récemment qui a été révélatrice pour toi? Ou...
Oui, exactement. L'hiver dernier, avec quelqu'un qui a des entrées dans les ligues importantes de l'Amérique du Nord, et il m'a dit, écoute, les commissaires des ligues importantes d'aujourd'hui ne considèrent plus Montréal, malheureusement. Et pour la simple raison que la volonté politique n'y est pas. Je crois qu'aujourd'hui, honnêtement, d'aller de l'avant en tant que politicien et dire, nous allons appuyer un projet qui souvent, ben les propriétés sportives sont la propriété d'hommes d'affaires riches. De dire qu'on appuie ça et on se met derrière ça, même s'il n'y a pas nécessairement d'argent clair, net et précis qui est donné, c'est pas très populaire. C'est pas très cool. Et là, tu sais, je sais que Portland, c'est une des villes en Oregon où on considère la possibilité d'amener une équipe du baseball majeur. La semaine dernière, j'étais à Portland pour le travail. Je me suis promené. Belle petite ville. Ville de 600 000 personnes. Et là, je me dis dans ma tête, mais est-ce que ça fait du sens? Si je suis le commissaire du baseball majeur, je regarde ma carte là, devant moi, puis je me dis, quelle ville je veux avoir dans mon circuit? Puis là, je dis, hey, il y en a une là, qui a 4,5 millions d'habitants. C'est la seule ville d'Amérique du Nord qui a plus que 2 millions d'habitants qui est pas dans notre carte du baseball majeur. C'est sûr qu'on va regarder vers Montréal avant, parce que c'est clair qu'il n'y a pas de compétition, puis après, on va regarder les autres. Ben non, on considère une ville comme Portland à 600 000 habitants.
Ben, t'as un petit peu quand même, Jérémy, l'agglomération tu parles-tu de Portland en Oregon?
Oui, exactement.
Okay. De 600 000, l'agglomération, je sais pas comment ça représente, ça doit être plus que ça, non?
Ben, écoute, j'étais là, j'ai regardé vite, la population, c'était 600 quelques mille, plus ou moins, peut-être que dans les alentours, il y en a quelques centaines de milliers de plus,
mais je veux dire... 2 226 000 qu'on...
Ça, c'est l'agglomération
complète. L'agglomération de Portland
en Oregon.
C'est ça.
Okay. Donc, on est plus que le double, deux. Alors, je me dis, comment ça se fait que le baseball majeur ne mette pas son doigt directement sur Montréal et dise... On peut pas se priver d'un marché de 4,5 millions de personnes. En plus, un marché francophone qui, dans toutes les ligues d'aujourd'hui, qui essaye de prendre l'expansion de façon internationale, on a un marché qui opère en français et on pourrait utiliser pour aller chercher de la clientèle ailleurs dans le monde, des francophones, on s'en sert
mais
pas.
Mais tout ce que tu dis, Jérémy, quand tu dis on s'en sert pas, là, tu sais, les ligues, ils implantent pas de concessions nulle part, tu sais, s'il y a pas personne pour les acheter. Marc, comment tu réagis au propos de Jérémy? As-tu envie de répliquer à ça? Parce que, Jérémy, tu sembles blâmer les gouvernements ou la population? Parce que, tu sais, les gouvernements...
Non, pas la population. Moi, je pense
Non, pas la population.
Okay.
Je pense que les gouvernements, pour des raisons qui, financières, c'est pas comme aux États-Unis. Ils veulent pas appuyer les équipes professionnelles. On dit qu'ils sont capables, que les équipes sont capables s'ils sont capables de payer des joueurs, d'offrir des contrats qui, des millions, des centaines de millions à des joueurs, qui gèrent eux-mêmes, puis qui gèrent leur installation, puis qui bâtissent leur installation. Ça, on peut en discuter longtemps, là. Mais Montréal, là, tantôt, Jérémy disait qu'il avait parlé à un personnage influent du monde des affaires. Montréal, là, c'est plus seulement... Montréal n'est plus un joueur majeur dans les ligues, sur la scène sportive professionnelle américaine. Pas seulement ça. Puis là, je risque d'écorcher les oreilles de Madame Plante. Montréal, là, aujourd'hui, là, quand on regarde Montréal, la ville est dans un état lamentable. Montréal n'est plus Montréal. Pour quelqu'un, là, pour les gens qui nous écoutent, là, qui ont mon âge, là, moi, là, je vais avoir 70 ans l'an prochain. J'ai grandi dans les années 60. On a vu le métro arriver. Puis ça faisait 50 ans qu'il en parlait. On a vu le métro arriver. L'Expo 67 a mis Montréal sur la map monde. Ensuite, les expos sont arrivés. Montréal bougeait dans le temps. Il y avait un buzz à Montréal. Mais tout ce qui s'est fait dans ce temps-là, ce buzz-là, il n'est plus là.
Si ça avait été mieux fait, est-ce que ça serait différent? Parce qu'on va se le dire, tout n'a pas été bien fait non plus, hein, Marc et Jérémy.
Non.
Prenons juste, pensons juste aux histoires du stade, là. Tu sais, je veux dire, c'est un cauchemar en soi. Fait que ça devient comme à un moment donné une espèce de boulet qui est ancré dans la pensée collective. Tu sais, je vais faire un parallèle que Guy Boucher faisait quand il disait des livres qui peuvent pas gagner parce que la petite bébite va toujours devenir trop grosse puis tu comprends? Parce que dans leur imaginaire collectif, ils vont perdre. Il y a une raison qui va faire qu'ils vont perdre. Ben, nous, par rapport à l'administration du sport et des gros dollars du sport olympique professionnel, il y a comme un gros problème dans faites juste comme les gens me l'écrivent à la messagerie texte, juste la difficulté de beaucoup de gens avec les salaires des joueurs. C'est pas d'hier, là. Même Charles Bronfman avait eu de la misère avec le salaire qu'il avait été obligé de donner à Gary Carter.
Ouais, ben oui, mais c'est vrai que ce qui s'est passé, notamment au Stade olympique, a laissé tellement un goût amer dans la bouche de tout le monde. Et là, on se dit, ben, faudrait pas refaire la même erreur. Et pour ne pas faire la même erreur, on ne fait rien du tout. Je veux dire, on va se le dire, là, notre Stade olympique, là, si on compare à tout ce qui se fait en Amérique du Nord, ça n'a aucun bon sens. Les stades de cette époque-là, soit ils ont été démolis ou ils ont été grandement rénovés. Il y a personne qui laisse leur stade dépérir de la façon dont on a laissé notre stade le faire. Tout le monde a peur de s'avancer et dire, bon, prenons une décision, on fait quoi avec ce stade-là? Et un jour, ça va devenir un enjeu de sécurité et on le sait déjà parce que s'il y a 2 cm de neige qui tombe sur le toit, ben on n'est pas capable de tenir un événement. On est rendu à ce point. On est rendu au point où peut-être que ça va devenir un enjeu de sécurité parce qu'on a peur de prendre une décision puis de dire qu'est-ce qu'on fait avec ce stade-là.
On ne s'assume pas.
Mais non, exactement. Je regarde à Vancouver, le BC Place qui a coûté 600 millions pour être rénové. Mais aujourd'hui, il y a 2 équipes qui jouent dedans à temps plein puis il y a des événements pratiquement tous les jours.
De 1962 à 1970 environ, là, il s'est bâti une dizaine de stades aux États-Unis, ce qu'on appelait des stades multifonctionnels. Oui. Donc, on pouvait aller y voir du baseball et du football. À un moment donné, on s'est aperçu, non, c'est pas fait pour le baseball. Moi, je suis allé au Veterans Stadium à Philadelphie, j'en ai vu d'autres aussi, j'ai vu le Three Rivers Stadium à Pittsburgh. C'était plus petit que le Stade olympique, beaucoup plus petit. Mais ça restait quand même des grosses charpentes en béton. Mais ce qu'on a fait à un moment donné, on a dit non, ça marche pas ça, ça marche plus ça. On démolit, puis on revient à des stades avec des dimensions plus
humaines,
qui vont permettre une meilleure
intégration,
proximité de la foule avec les joueurs. Puis tu sais, ils ont changé leur fusil d'épaule. À Montréal, on n'est pas capable de faire ça, nous autres?
Écoute, regarde, je vais te donner un autre exemple. Ça n'a pas tourné comme les gens l'espéraient avec Jonathan Drouin. Fait que tu sais. Remarque le jour que le Canadien va aller chercher un agent libre québécois de forte réputation sans qu'il soit précédé par en voulant dire ben non, ça n'a pas marché une fois, ça ne marchera pas une autre fois. Tu sais, c'est comme on dirait que c'est difficile de changer l'opinion publique, la perception. Les gars, j'ai une dernière question. C'est intéressant. Je sais pas si vous avez un mot de la fin à dire là-dessus avant une pause, puis je vous demanderai votre plus beau jour à vie comme amateur de sport ici au Québec. Alors, un mot de la fin sur ça, Jérémy, sur cette discussion-là?
Moi, tout ce que je dirais, c'est aux gens. Sortez de Montréal un peu, allez voir par exemple un match des Blue Jays, un jour de match au centre-ville de Toronto, et rendez-vous compte vraiment, ça veut dire quoi avoir un club des ligues majeures dans votre ville, parce que c'est, je pense que les gens oublient et s'en rendent pas compte, peut-être qu'ils ont même jamais vécu ça dans leur vie. Le plus beau moment sportif que j'ai vécu
ça,
à Montréal...
Ça va être après la pause, si tu me permets. Marc, mot de la fin sur la discussion du statut de Montréal comme ville majeure.
Jérémy, moi je vais juste enchaîner avec ce que Jérémy vient de dire. Déjà, puis c'est depuis le départ des expos, et même le départ des Nordiques, les gens du Québec, quand ils veulent voir du baseball, ils vont à Boston, ils vont à Toronto, ils vont à New York, puis parfois, ils vont voir du football, la NFL, donc ils font une combinaison. Le samedi, on va voir du hockey, la Ligue nationale, on va dire, dans la région de New York, et le lendemain, on va au MetLife Stadium au New Jersey pour voir soit les Giants, soit les Jets contre d'autres équipes de la Ligue nationale de football. C'est rendu là.
Mm-hmm.
Ça, c'est de l'argent, là, qui se dépense là-bas, pas ici, là.
Ouais, ouais. Donc, on est résigné. Puis, tu sais, quand je dis, est-ce qu'on peut être heureux avec ce qu'on a? Les gens semblent s'accommoder de ça. Je vois pas de grande manif, mais j'aimerais terminer avec votre plus beau souvenir, chacun d'entre vous, Marc et Jérémy, dans un petit moment. Tout à l'heure, je vais ouvrir les circuits. Beaucoup, beaucoup de réactions à cette discussion, messieurs, sur la messagerie texte. On revient.
Jusqu'à minuit, le réseau Cogeco vous présente les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Tu as révélé ton âge tout à l'heure, alors je ne trahis pas un grand secret, mais qu'est-ce que tu pourrais identifier comme, je sais pas si tu t'es laissé aller être un amateur par moment à travers ton rôle de journaliste, récemment ou il y a bien longtemps, qu'est-ce que tu pourrais identifier comme le plus beau jour de ta vie sportive ou d'amateur de sport?
Ben, je dirais pas le plus beau jour. Moi, je dirais mes 25 à 30 premières années dans le métier. Parce que à ce moment-là, quand j'ai commencé au Montréal le matin, et ensuite au Journal de Montréal, il y avait tellement d'activités sportive à Montréal. Tu ouvrais le Journal de Montréal d'hiver. Tu commençais avec le Canadien. Ensuite de ça, c'était le hockey junior qu'on couvrait mur à mur. Qu'est-ce qu'il y avait? La lutte du lundi soir au Centre Paul Sauvé. La lutte locale.
Il y avait de la boxe.
Remplacé par la WWF. Moi, la lutte locale, je m'excuse. Moi, j'adorais ça. J'adorais ça le samedi après-midi. Il y avait les courses de chevaux à Blue Bonnet. Il y avait... Il manquait de rien. Il y avait... On couvrait tout. Puis il y avait de la matière, et de la matière, il n'en manquait pas. L'hiver, ben l'été, c'est ça, c'était le baseball, puis le football, puis encore les courses de chevaux, puis il y avait le Grand Prix d'été à Blue Bonnet, est arrivé le Grand Prix du Canada, qui demeure un de nos grands événements, ensuite le tennis, d'ailleurs, on parlait des infrastructures tantôt, ça fait combien d'années là que les gens des internationaux de la Banque nationale demandent qu'on ajoute un toit?
Pour au moins 7-8 ans.
C'est lettre morte, il se passe à rien, personne ne répond, personne ne veut rien faire. Mais en tout cas, moi, il n'y a pas une journée comme telle. Oui, ben, si on veut, les conquêtes de la Coupe Stanley du Canadien, oui, quand j'étais un jeune partisan, et j'ai trippé là-dessus. J'en ai vécu tout comme journaliste. C'est spécial, très spécial. Les expos de 1981 et de 1994, j'ai trippé là-dessus aussi. Les conquêtes de la Coupe Grey des Alouettes des années 70, c'était quelque chose.
Il y a eu des beaux moments. Il y a eu des beaux moments.
70 avec Marv Levy, là, c'était du gros calibre.
Philo, toi?
Ben, écoute, moi aussi, comme Marc, je m'ennuie beaucoup de la variété qu'on avait à l'époque. Je trouve qu'on est rendu vraiment unidimensionnel. Ça m'attriste beaucoup. Mais, tu sais, j'ai pas de grands moments. Pour un homme de 48 ans, je peux pas dire que j'ai vécu énormément de grands moments sur la scène sportive montréalaise. Écoute, j'ai vécu deux Coupes Stanley où j'étais assez vieux pour savoir ce qui se passe. Les deux fois, j'étais en Italie, parce que moi, je passais mes étés en Italie. Donc, j'ai pas vu live et j'ai pas participé aux parades de la Coupe Stanley du Canadien. Les Expos n'ont jamais gagné une série mondiale. Le CF Montréal n'a jamais gagné la MLS Cup. Je te dirais que le plus près qu'ils sont passés, c'est la finale de la Ligue des Champions au Stade Olympique avec 62 000 personnes. Ça, je vais m'en souvenir toute ma vie. J'étais à la description de ce match-là. Malheureusement, ils ont perdu, mais ça va rester marqué, gravé dans mon esprit, parce que pour moi, de voir une équipe de Montréal arriver dans une finale continentale parmi les plus grands clubs de soccer de son continent, c'était incroyable pour moi. Puis j'avais même vécu le premier match là à l'Azteca au Mexique. Puis je te dirais, 1994, j'avais une petite blonde dans ce temps-là, puis je l'avais amenée au baseball. Elle connaissait rien du baseball, elle n'avait jamais vécu ça. Puis on a regardé les trois matchs de la série que les Expos avaient balayé face aux Braves au mois d'août. Et en trois jours, j'avais converti une fille qui avait jamais regardé une game de balle dans sa vie. Puis elle était mordue. Et le cousseur de Cliff Floyd et ceux de Will Cordero. Et c'est ça, c'est parmi ça mes plus beaux moments.
Eh bien, donc, on sent que tu es encore en appétit, mon cher, ou en attente, mon cher Philo. Ouais. Merci, Jérémy. Merci, Marc.
Ça me fait plaisir.
Merci pour la belle discussion qui a généré beaucoup, beaucoup de commentaires que j'ai hâte d'entendre à la prochaine heure. À bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Marc. Bye-bye.
Merci beaucoup de l'invitation.
Bye. Toujours un plaisir. Salut, Jérémy. À bientôt.
Salut, Mario. Salut, Marc. Bye-bye.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie lustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui, c'est un maringouin.
Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre BZ4X 2024. Visitez achetezmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Léger retour sur le week-end des Alouettes, une défaite contre les Lions de la Colombie-Britannique à la maison en présence de plusieurs anciennes gloires de l'organisation. On aurait aimé ça gagner sans aucun doute. Bruno Eppel est avec nous. Bonsoir Bruno.
Salut Mario.
Es-tu resté sur ton appétit? Comment tu l'as vu? Les Alouettes ont perdu, les Lions étaient plus forts, on a laissé des points sur la table. Je voulais savoir c'était quoi ta lecture de cette défaite-là?
Ben, la première lecture que j'en fais, puis j'en parle beaucoup depuis la défaite, c'est on a perdu le match. C'est pas l'autre équipe qui a gagné. Puis okay. Moi, c'est ce qui m'a le plus frustré. Les Alouettes avaient ce match-là à portée de main et ils ont tout fait ce qu'il faut faire pour perdre un match dans des moments importants, quand tu t'approches de la zone de but, quand tu as la chance de marquer des points, quand tu as la chance de sortir l'autre équipe du terrain. On a tout fait défensivement et offensivement pour perdre ce match-là. Par contre, il faut le dire, Vernon Adams, lui, pendant ce temps-là, il a réalisé les gros jeux. Pendant que notre corps arrière, de notre côté, lui lançait des interceptions dans des moments cruciaux, ben Vernon Adams, lui, a joué tout un match devant son ancienne équipe et devant ses anciens partisans.
Et t'as tellement bien résumé ça, parce que là, honnêtement, on aura refait un échange changé de corps arrière samedi soir, là.
Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Et à la fin du match, je me rappelle, on voyait les images de Cody Fajardo sur les lignes de côté avec la tête entre les mains, là, puis il se posait des questions, puis on montrait Davis Alexander en gros plan. C'est comme si tout le monde était en train de dire est-ce qu'on va rester patient avec un Cody Fajardo qui cause notre perte dans un moment aussi important que la fin du match. T'sais, après la fin de bottée de dégagement, les Alouettes avaient le vent dans les voiles. On fait une fin de bottée de dégagement sensationnelle avec Antwi. On est près de la zone de but. La première passe qui lance une interception dans une double couverture, t'sais, une passe forcée, une passe que tu ne peux plus lancer quand tu es encore...
Je vous écoutais en direct, puis les gars, là, écoute, c'était un anticlimax, là, pas à peu près, ça, là.
Ah, c'était effrayant. Mais tu peux pas avoir pire que ça. Ça a complètement dégonflé la ballonne des Alouettes. Et après ça, ben, on a joué complètement du football de rattrapage. On s'est jamais remis, finalement, de
non.
ça.
Non. Ou ce qu'il y a en tête quand il lance ce ballon-là, on est au premier essai, si ma mémoire est bonne à ce moment-là, hein.
Oui,
c'est Bruno, c'est premier jeu. Premier 10.
Oui.
Je le sais que Mac, honnêtement, il est impressionnant. Le catch qu'il a réalisé dans l'autre zone de début, plutôt dans le match, là, c'était un catch des grandes ligues, hein, Bruno, c'était du gros calibre.
Oui, oui, oui.
Mais là, de là à penser qu'il va attraper tous les ballons que tu lances dans sa direction avec une double couverture, là, tu sais, faut pas rêver en couleur. Honnêtement, non. C'était vraiment décevant. C'était une piètre décision du corps arrière.
Oui, puis même sa deuxième interception, je comprends que le match là, était peut-être hors de portée, ça aurait pris une coupe de miracle, mais il a lancé là, cette fois-là dans une triple couverture. Encore une fois, il a forcé une passe, puis c'est le genre de choses que tu veux pas voir, puis c'est bien beau de lancer à ton receveur numéro un, mais il faut que le jeu soit là. T'sais, à un moment donné, puis on a même vu Jason Moss le dire à Fajardo quand il est revenu sur le banc, il parlait avec Fajardo, puis on l'a vu. Et on est capable de lire sur les lettres, puis il a dit « if it's there ». Tu sais, en voulant dire, tu lances là, mais juste si le jeu est là, sinon on va ailleurs. Tu sais, t'as pas besoin de forcer les choses. Et il l'a fait, mais c'était pas la seule chose. Il y a
non.
plusieurs choses, mais en bout de ligne, quand t'es 0 en 3 dans zone payante, puis que ça devient une constante... Ben là, faut que tu commences à regarder ton corps arrière. T'sais. Si t'as pas le choix, ben ça commence par lui.
Ça commence par là, puis c'est difficile même de regarder ailleurs, parce que tu sais, ça revient à ça, pas de corps arrière. Non, mais pour vrai, le regard Edmonton reprend vie tranquillement, puis tu sais, il y a un corps arrière au cœur de leur histoire. Je te dis pas que ça va être leur année, mais comme quoi, ça donne du gaz, ça donne de l'espoir. Outre ça, bon, un placement raté, ça va arriver, c'est sûr.
Oui, mais il a raté un mauvais moment. Encore une
oui.
fois, il était 4 en 4, là, il y en a un de 28 verges, puis C'est le genre de match que les Alouettes ont eu, malheureusement.
Ouais. Les convertis, les tentatives de convertis de 2 points, qu'est-ce que tu en pensais?
Moi, j'aurais été pour un. Et là, le match se termine 34-25, ça ne change plus rien. Là, mais à ce moment-là, même moi et Mathieu, on se regardait, on dit pourquoi y aller pour deux?
Ouais.
En ce moment, tu sais, et on l'a raté. Puis après ça, c'est drôle, les Lions sont retournés tout de suite sur le terrain, ils ont marqué un toucher. Et là, ils ont pris une avance, je me rappelle plus trop des chiffres, je pense que c'est une avance de 8. Puis là, j'ai dit à Mathieu, J'ai dit, écoute, si on avait pris juste notre point, on perdrait juste par 7.
Deux portées de ballon, oui. Deux possessions, ouais, pardon.
Un converti d'un point est nécessaire au lieu de deux. Puis après ça, c'est drôle, le match fini, on perd par 9. Si on avait perdu par 8 à la fin du match, peut-être qu'on aurait eu une chance d'aller égaler. En tout cas, il y a plein de choses. Moi, je n'étais pas d'accord. J'ai même dit à Mathieu Proulx, j'ai dit, il faudrait qu'on me l'explique. Puis Mathieu n'était pas capable de trouver d'explication. Il faudrait qu'on demande à Jason Marsh, en fait.
Ouais, et j'espère que les Pourquoi questions vont se poser. Ouais, c'est ça. À deux reprises, moi non plus, j'étais pas trop sûr de suivre. Là, c'est sûr que des fois, tu calcules les pointages en fonction de ce qui s'en vient.
C'est qu'avancer, Mario, là, moi, j'en ai ras le bol, je
vais te le dire. Ah ouais, t'es sérieux, mon Bruno? Ah ouais, grosse prise de position ce soir. Let's go.
Ouais. Ah non, j'en ai ras le bol dans le sens où même dans les matchs de la NFL, on les voit prendre. C'est comme si c'est rendu, on prend plus de placement, tu sais, je sais pas, là, c'est ça, c'est des statistiques avancées, c'est la nouvelle réalité, puis j'imagine qu'ils en savent beaucoup plus que moi sur ça, mais la réalité, c'est qu'à plusieurs reprises, nous, on est en train de regarder ces matchs-là, puis on se dit, hey, les fameuses statistiques avancées, là, des fois, ça tenue plus qu'à sa tête, mais bon.
Bruno, je mets la table pour la tribune téléphonique de 22h ce soir, en allant dans des belles émotions que le sport nous a procurées. Je te demande tout simplement, qu'est-ce que tu as senti de plus fort, toi, dans ta vie d'amateur de sport ou d'athlète? Ça a été quoi le plus beau jour de ta vie?
De sport. Écoute, en regardant un match dans mon salon, là.
Ouais.
Moi, c'est. Parce qu'il faut pas que tu oublies, moi, j'ai joué au football très tard. Fait que, c'est juste, moi, je suis un fanatique de hockey. Mon père m'a mis au hockey voir le Canadien. Fait que je te dirais, mon souvenir dans un salon de triper Beret, c'est quand le Canadien a gagné la Coupe en 86.
Wow, OK. 1986.
J'étais au second avec Patrick Roy, il avait 19 ans, je pense, à ce moment-là. Je me trompe pas. Là.
Ouais, c'est notre génération pas mal, ça, Bruno. Hein?
J'étais capoté. J'ai même loué mes cours pour aller voir la parade.
Oh, que je suis étonné de ça, d'apprendre ça, une affaire de même, Bruno. Tu me surprendras toujours.
Et voilà. C'est
merci. Puis comme athlète, je sais que c'est la conquête de la Coupe Grey.
Ben, c'est garanti. T'sais, j'ai gagné deux championnats en tant que footballeur, le Bol d'Or et la Coupe Grey. Puis c'est évident que la Coupe Grey venait avec tout l'enveloppe de toute l'expérience de la parade, d'aller au Centre Bell, puis tout ça, fait que c'était un moment absolument exceptionnel. Mais le Bol d'Or, je l'ai toujours dit, j'ai eu autant de plaisir à gagner le Bol d'Or que de gagner la Coupe Grey, parce que t'es le meilleur à ce que tu peux être au moment présent dans lequel tu es. Puis ces deux championnats-là, je vais m'en rappeler toute ma vie.
J'adore que, même si c'était pas du professionnel dans le cas du Bol d'Or, que tu mettes ça au plan des émotions puis de la fierté sur le même étage, tu me passes l'expression. Puis j'ai très hâte d'entendre les gens. D'ailleurs, tout est dans l'œil de celui qui regarde ou dans le cœur de celui qui l'a vécu. Puis il n'y a rien de petit quand c'est le plus beau jour de ta vie de sport. c'est carrément ça.
En 92, je pouvais pas gagner la Coupe Grey, je pouvais juste gagner le Bol d'Or et être le meilleur au cégep, puis c'est ce qu'on a été, puis c'était extraordinaire.
Bruno, merci beaucoup d'avoir lancé la semaine avec nous. Une semaine écourtée. On se reparle plus tard cette semaine.
Yes.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Touché! Pour les fidèles du sport.
Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie lustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre BZ4X 2024. Visitez achetezmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Grande épreuve cycliste au pluriel en fin de semaine prochaine à Québec et Montréal. Le 8 septembre, le Grand Prix cycliste de Québec et le 10 dimanche, le Grand Prix cycliste de Montréal est un de ceux qu'on observe toujours avec grand plaisir lorsqu'on a l'occasion de le voir en personne, tant à Québec qu'à Montréal. Eh bien, c'est le cycliste originaire de Sainte-Perpétue qui d'ailleurs revient du Maryland où il a fait une petite course de préparation, un troisième rang de cette épreuve-là. Nul autre que Hugo Hull de l'équipe Israël Premier Tech. Bonsoir, Hugo.
Bonsoir.
Alors, Hugo, j'imagine que ton résultat obtenu à Baltimore, Maryland, en fin de semaine, te confirme que tu es dans des bonnes dispositions pour les épreuves des prochains jours?
Oui, certainement. Ça met ma confiance, là, surtout que ça fait une longue période que j'avais pas couru depuis le Tour de France. Donc, ça s'est très bien passé du côté des États-Unis. L'équipe, on a bien performé. Donc, on arrive motivé là, pour les courses à la maison, si on veut. Et... Non, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner ici. C'est clair que le niveau est plus élevé qu'aux États-Unis, mais très satisfait là, d'avoir pu compléter le podium là-bas.
Bon, t'as fait allusion au Tour de France, t'as pas couru beaucoup depuis ce temps-là. Comment résumerais-tu tes derniers mois de compétition? Et au Tour de France, où l'équipe a quand même bien performé dans l'ensemble, vous avez remporté une étape. Toi, t'as pas pu répéter l'exploit de 2022, mais je sais que t'avais eu un petit rhume ou un rhume avant, là.
Ouais, c'est exact. À la sixième étape, là, j'avais tombé un peu malade. Du coup, ça m'a un peu ralenti, si on veut, pendant quelques jours. Après, bon, j'ai réussi à faire des belles échappées, mais j'étais pas assez au niveau là, pour jouer la victoire d'étape cette année. C'est clair que pour l'équipe, ça a été quand même une édition très réussie avec la victoire de Michael Woods, mais aussi dans l'ensemble, notre équipe était beaucoup plus solide. On a été des animateurs de la course pratiquement sur toutes les étapes. Puis il n'était pas rare de voir 3-4 coureurs de notre équipe aux avant-postes pour essayer de remporter une étape. Donc, l'équipe était très satisfaite là, du Tour de France qu'on a eu.
Je trouve ça intéressant. Je sais pas jusqu'à quel point tu sais, avant une épreuve, ce que tu vas être capable de donner avec tous les outils pour mesurer ce que j'appelle un petit peu la télémétrie, comme en Formule 1, mais du corps humain. Je sais que, par exemple, dans le hockey, les équipes qui jouent dans l'Ouest, compte tenu qu'ils voyagent plus, ils essaient d'avoir un indice de fatigue de leur équipe de façon à le contrer. Toi, comme quand tu fais allusion au fait que tu n'avais pas les jambes de 2022, c'est-tu quoi que tu ressens intérieurement ou que les indications télémétriques te disent?
Ouais, c'est clair qu'on utilise de plus en plus certains indicateurs externes qui nous permettent de quantifier ou d'analyser toutes les données qu'on peut récupérer avec nos capteurs de puissance ou on récupère même des données de notre sommeil avec le nombre d'heures de sommeil, la variabilité cardiaque. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de données. Après, il reste que je suis probablement le meilleur pour sentir mes sensations et d'être capable de juger si je suis en forme ou un peu moins en forme ou qu'il manque un petit quelque chose. Il reste que, encore aujourd'hui, l'expérience de plusieurs années dans le milieu fait que c'est ça qui nous guide le mieux, mais on utilise beaucoup les données de l'extérieur.
Est-ce que ça t'est arrivé de surprendre toutes les données en livrant une grosse performance au moment où les données n'indiquaient ou n'annonçaient pas ça?
Oui, certainement. Il faut pas s'arrêter à ça. Il faut l'utiliser pour essayer de nous guider, mais c'est clair que des fois, tu n'as pas trop envie, puis c'est ta meilleure journée, ou encore l'inverse, tu te prépares, tu fais tout parfait, tu arrives au jour de la course, tu es complètement vide, tu n'as pas d'énergie, les jambes sont pas là, donc... Il n'y a pas vraiment de réponse exacte, mais des fois, tu penses que tu es en super forme, tu arrives le jour de la course, tu n'as pas de jambes, un jour sans, comme on appelle. Donc, on sait jamais trop à quoi. On sait quand on est en forme ou quand on n'est pas en forme, mais sur une course d'un jour, des fois, il y a des journées, ça marche pas, puis il y a d'autres, ben, tout va tout seul. Donc,
33 ans en septembre prochain, Hugo Hull avec nous en conversation ce soir aux amateurs de sport. Dans la vie d'un cycliste, là, est-ce que t'arrives au sommet? T'es-tu pas mal dans ce qu'on appelle dans ton prime, Hugo?
Oui, je suis dans mes meilleures années, ça c'est certain. J'espère être encore capable de progresser à chaque année pour les trois prochaines années, mais c'est clair que je suis dans mes bonnes années, certainement. Ma forme physique est la meilleure que j'ai eue depuis que je suis professionnel, ça c'est certain.
Ouais. Là, fait que tu es revenu de Baltimore aujourd'hui même. Est-ce que tu es déjà à Québec ou en transit pour arriver à Québec un petit peu plus tard cette semaine pour l'épreuve de vendredi?
Non, on est revenu déjà hier. J'ai dormi à Rivière-du-Loup. Aujourd'hui, je suis allé visiter les bureaux de Premier Tech. On avait une rencontre à Rivière-du-Loup, toute l'équipe, pour aller visiter les installations là-bas. Donc, on a visité une tourbière, on a vu un peu ce qu'ils faisaient, tous les corps de métier qu'il y avait là-bas. Et puis, je suis de retour à Québec, là, à l'hôtel Delta, pour rejoindre tout le peloton international qui est arrivé, eux, de Paris aujourd'hui.
Hey, tu peux m'en dire plus sur Rivière-du-Loup? Pourquoi Rivière-du-Loup? C'est quoi le lien avec Israël Première Tech et Rivière-du-Loup? Ah, l'usine est là-bas, hein?
En fait, c'est une usine de quoi exactement? Premier Tech, là, c'est ils ont des tourbières à Rivière-du-Loup, donc ils ont commencé là-dedans. Ensuite, ils ont créé une division, toutes les machines automatisées pour mettre ça en sac, tout en châssis, qui est devenu aujourd'hui leur plus grosse partie de la business. C'est aussi Premier Tech où ils font les EcoFlow qui appellent. C'est quand la maison n'est pas connectée au réseau d'aqueduc, ben, ça te prête au puits. Ah. Donc, ils vont fournir ça aussi. Et il y a 5 divisions de Premier Tech. Là, je peux vous faire un long cours, mais je vais vous en épargner. C'est à peu près ça. Puis Rivière-du-Loup, ben, ils reçoivent cette semaine pour le 100e 4000 employés sur place. Donc, c'est leur siège social. Ils sont très fiers là, d'avoir réussi à implanter l'entreprise en région comme ça. Puis de rayonner à l'international.
Ben, je suis content d'apprendre ce volet-là. Tu vois que je connaissais moins de l'historique puis des liens de Première Tech, qui serait de Première Tech. Puis écoute, c'est le fun de souligner ça. J'ai aucun problème à le souligner. C'est une belle implication et c'est un gros événement que de recevoir autant de gens à Rivière-du-Loup. Je reviens maintenant à la compétition, les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal. Bon, deux épreuves comme ça, une journée de pause entre les deux. Toi, c'est quoi le menu d'ici là? Tu vas rouler tous les jours? Tu te prépareras pas comme j'imagine quand vous faites le Tour de France puis que tu roules à tous les jours. Qu'est-ce qui est différent pour deux épreuves comme en fin de semaine?
Ben, en fait, c'est qu'au Tour de France, à un certain moment, il y a deux courses dans une. Donc, il y a la course pour le maillot jaune. Il y a des équipes qui sont focalisées là-dessus, que le temps cumulatif de tous les jours. Puis, tu as des équipes qui veulent gagner l'étape. Donc, il y a deux courses dans une. Tandis que ce week-end, c'est tout le monde qui est ici et 100% concentré sur la victoire d'étape. Donc, tout le monde donne son 100% sur une journée. Et c'est le plus fort qui gagne. Fait que c'est vraiment des courses explosives avec beaucoup d'action. Et le fait que les courses de Québec et Montréal sont en circuit, les spectateurs qui se déplacent peuvent nous voir tourner au moins pendant 4 heures. Donc, ça rend ça encore plus agréable pour eux comparativement au Tour de France. Souvent, on va du point A au point B. Et il y a moins d'interactions avec le public qui se déplace.
Est-ce que la stratégie d'équipe a déjà été déterminée pour vendredi ou dimanche, à savoir pour qui l'équipe va travailler ou parfois ça se décide en pleine course selon justement qui est en jambe ou l'est moins au-delà de ce qu'on a anticipé?
Ben, c'est certain qu'on a un plan initial. Je te dirais que 99,9% du temps, il faut l'adapter en course. On se fait un plan, mais après, bon, en fonction de la stratégie des autres équipes, on est tout le temps en train de s'ajuster aussi, indépendamment, comme tu l'as bien dit, des sensations de chacun des coureurs de l'équipe. En théorie, là, on a annoncé qu'on allait courir pour Corbin Strong, qui est un coureur assez rapide pour Québec, et Michael Woods a déjà annoncé qu'il aimerait gagner le Grand Prix cycliste à Montréal.
Est-ce que c'est difficile de se soumettre à ces stratégies d'équipe quand elle ne nous favorise pas dans un rôle de meneur ou de leader?
Ah, après, c'est un sport professionnel. On connaît sa position, ses capacités. J'ai assez d'expérience. Je comprends bien mon rôle, donc je suis très confortable avec ça. Puis la roue elle tourne, honnêtement. Là, des fois, tu vas donner ton 110% pour tes coéquipiers. Puis un jour, s'ils ont la chance de t'aider, ils donnent aussi tout ce qu'ils ont pour te remercier. Donc, ça fait que tu peux aller chercher les plus beaux résultats. Fait que c'est la chance qu'on a dans le cyclisme. On fait quand même 60 à 80 jours de course annuellement. Donc, on a le temps d'avoir notre chance de toucher chacun en fonction de notre forme, comment elle évolue au fil de la saison.
Quelle épreuve entre celle de Québec et de Montréal est la plus exigeante au plan de la dépense énergétique de l'effort global, mon cher Hugo?
De loin, Montréal, parce qu'il y a plus de dénivelé. On parle de 5000 mètres de dénivelé. La course est un peu plus longue en termes de temps, donc Montréal est définitivement beaucoup plus difficile.
J'allais te demander aussi, et peut-être une question toute simple, j'ai une réponse en tête avant même de te poser la question, mais je demande ce soir en tribune téléphonique aux gens qui vont nous appeler, quel est le plus beau jour de votre vie d'amateur de sport ou d'athlète? Si je te pose cette question-là, est-ce que ça nous ramène au maillot jaune en 2022 nécessairement ou il y a un autre moment moins évident qui représente pour toi le plus beau jour de ta vie d'athlète?
Non, c'est sûr que il n'y a rien qui battra la victoire au Tour de France en l'honneur de mon frère. Au niveau sportif aussi émotionnel, ce que ça représentait pour moi, je pense pas que même si je gagne n'importe quoi de grand dans le futur, je pense pas qu'il y aura la même émotion, c'est impossible.
Maintenant qu'on est un petit peu plus tard, jusqu'à quel point t'as considéré ou t'as observé que ça avait changé tes relations ou la perception qu'on avait de toi, Hugo, ailleurs qu'ici au Québec ou au Canada?
Bon, c'est certain que la perception a changé un peu. Je vous mentirai pas, les gens me reconnaissent plus parce que j'ai accompli ce que je fais. Ils me voient un peu comme j'ai ça. J'ai comme eu mon étampe de vrai cycliste, si on veut, et c'est sûr que ça laisse des traces partout à travers le monde. Les gens, ils savent je suis qui, puis ils me reconnaissent plus qu'avant, vu que cette victoire sur le Tour, le Tour est tellement médiatisé que ça laisse des traces. Là, jusque moi, j'étais le premier surpris, mais j'étais allé au Japon au mois de novembre l'année dernière, puis il y en a qui t'attendent avec ta photo, des choses comme ça. Fait que c'est là que tu réalises que le Tour de France a une portée qui est très, très, très forte.
J'aimerais te parler en terminant de la Fédération Cyclisme Canada. Tu as écrit une lettre ouverte, en 2020 pour dénoncer le fait qu'ils prenaient pas les cyclistes de route ou ils les traitaient pas avec beaucoup de respect. Encore cette année, ça a pas été facile. Des fois, vous renoncez à participer à des événements internationaux parce que vous devez payer une grosse partie de la facture, dont les mondiaux en Australie en 2022. Cette année, t'étais pas très satisfait non plus de l'endroit où on vous a signé pour dormir alors que vous disputiez les mondiaux, t'as pas eu de réponse directe. Ça me désole un peu de lire ça, parce que, tu sais, c'est pas la seule fédération canadienne qui semble avoir beaucoup de problèmes. Chacun a ses problèmes, mais il y a beaucoup de fédérations. Soccer Canada, ça semble être une catastrophe, ce qu'on constate. Je dis pas que c'est les mêmes problèmes, mais est-ce que c'est quoi le problème, selon toi? C'est-tu dirigé par le bon monde? Je sais bien que l'argent tombe pas du ciel, mais à un moment donné, il y en a de l'argent, ces fédérations-là, me semble.
Ouais, c'est pas une réponse facile à vous donner. Je peux parler un peu pour le sport du vélo un peu plus que ce que j'ai pu vivre moi, mais c'est clair que ils ont des intérêts. C'est des politiques internes que le gouvernement va fixer. Souvent, les budgets sont donnés en fonction du nombre de médailles reliées à chacun des sports. Dans le cas de notre sport, la piste, le cycliste sur piste souvent fait plus de médailles, même si on était très performant récemment en cycliste sur route sur différents championnats du monde. Je pense à Michael Woods, j'étais présent, il avait terminé troisième d'un championnat du monde et ça n'a pas débouché sur de meilleures conditions nécessairement, mais les médailles vont dicter quelle fédération sportive au Canada va avoir le plus de fonds. Et après, eux vont gérer à l'interne en fonction de leurs priorités puis mettre leurs critères. C'est très complexe, là. Honnêtement, la question est très compliquée, puis j'ai pas la. Comment dire ça? Je pense pas que j'ai la réponse à ça. C'est trop complexe.
Mais c'est frustrant, assurément.
Moi seul, je suis pas intelligent pour ça. Oui, non, c'est certain que c'est frustrant de mon côté, là, en tant que coureur. C'est sûr, quand je vais au championnat du monde représenter mon pays, puis c'est quand même fier du Canada, je pense qu'on a un pays solide et qui a quand même des ressources financièrement, là, de coucher dans un dortoir avec des jeunes coureurs juniors alors que je suis professionnel, puis je viens représenter mon pays pour faire le maximum d'avoir à me placer côte en deux rangées de sprint pour me préparer un championnat du monde. C'est clair que je suis déçu de ma fédération. Ils ont à s'occuper des athlètes comme moi qu'on est professionnel pendant 3 jours par année. Donc, s'ils sont pas capables de faire ça, ça amène un questionnement à savoir quelle est leur raison d'existence pour spotter cycliste sur route au Canada.
Ben, je comprends donc. Bien, Hugo, merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps ce soir entre Rivière-du-Loup, Baltimore et puis Québec et Montréal en fin de semaine. Bonne chance à toi, bonne chance à ton équipe et merci encore d'avoir été là.
Non, ça fait plaisir. Merci à vous. Bonne fin d'émission.
Merci beaucoup, Hugo. Hugo Hull, donc coureur de Premier Tech. C'est comme ça qu'on le prononce à Rivière-du-Loup. Sur la scène internationale, ben des fois, c'est la petite consonance Premier parce qu'évidemment, l'anglais domine. Mais voilà.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.
Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie lustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre BZ4X 2024. Visitez achetezmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.